C'est une question que je me pose et, toute proportion gardée, je crois que je me retrouve là avec Diderot qui se pose la question et qui reproche en effet Hubert Robert de ne pas avoir assez d'imagination.
Oui, il le dit parfois qu'il copie, que c'est de la
Voilà,
copie, en
voilà.
fait.
Il lui reproche un manque d'excès. Il y a même dans le premier texte de Diderot sur le salon de 1767,
67. Oui.
il y a même un texte où Diderot se laisse absolument emporter par son imaginaire jusqu'à écrire des choses qui sont tout à fait, qu'on dirait aujourd'hui, quasi pornographiques. Donc l'imaginaire d'Hubert Robert est un imaginaire raisonnable. C'est un imaginaire raisonnable porté, encore une fois, et ça il faut le dire, par un génie poétique tout à fait exceptionnel. Il y a en effet une poétique d'Hubert Robert. Cette poétique comprend les ruines, mais comprenant les ruines, elle comprend aussi une certaine mélancolie. Vous parliez tout à l'heure de projection dans l'avenir. Je crois que c'est ce qui arrive à des artistes et à des écrivains de génie, d'une certaine façon. C'est de non pas de prévoir l'avenir, mais de vivre comme si l'avenir était déjà présent pour eux. Il y a une jolie phrase de Hegel que j'aime beaucoup, qui dit: les révolutions qui apparaissent ont déjà eu lieu, sans qu'on s'en soit aperçu bien avant. Eh bien, je crois que cette mode des ruines pour le XVIIIe siècle, cette mode des collections pour le XVIIIe siècle qui rassemble le passé, témoigne que dans un imaginaire implicite, la révolution a déjà eu lieu. Et lorsqu'elle apparaît, elle apparaît à ce moment-là comme une catastrophe. Elle apparaît vraiment sous son aspect le plus monstrueux. Il faut quand même dire que Hubert Robert a été arrêté, qu'il a été envoyé à Sainte-Pélagie, où d'ailleurs un des historiens de Sade suppose qu'ils se sont vraisemblablement rencontrés. Vous voyez deux mondes là qui se rencontrent de façon tout à fait inattendue. Il faut aussi souligner que, et ça, je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est un fait établi, que il n'aurait dû la vie qu'au fait que le nom de Robert était un nom très répandu et qu'il y avait beaucoup de Robert à Sainte-Pélagie. Donc il aurait dû être guillotiné. Eh bien, voilà un homme qui survit à lui-même et qui a en quelque sorte prévu implicitement que son époque était habitée par cette catastrophe. Et qu'au fond, le temps lui-même, si on le considère dans sa chronologie, or c'est le propre du XVIIIe siècle de penser le temps comme chronologique. C'est ce qui fait dire en effet à Rosenberg que Hubert Robert est dans le temps. C'est ce qui fait que Proust s'y reconnaît. Le temps est vécu comme chronologique. Or, le temps vécu comme chronologique, eh bien, c'est tout simplement celui qui mange ses enfants. C'est le temps qui est habité par sa propre destruction. Et je crois que c'est vraiment là le génie d'Hubert Robert, c'est d'avoir assumé sans pathos, parce qu'il n'y a pas de pathos dans cette œuvre, c'est d'avoir assumé sans pathos la réalité de ce temps.